Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Et c'est maintenant l'heure de votre rendez-vous politique. Voici Dimanche politique sur RFI.
Adrien Delgrange.
Analyse de cette dernière ligne droite avant le premier tour de l'élection présidentielle avec vous, Frédéric Michaud. Bonsoir, bienvenue.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général adjoint de l'Institut de sondage OpinionWay. Dans une semaine, à cette heure-ci, nous connaîtrons l'affiche du second tour de la présidentielle française. Qui de Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Emmanuel Macron, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse, Philippe Poutou, Nicolas Dupont-Aignan seront qualifiés pour le second tour. Frédéric Michaud, à une semaine pile du scrutin, un tiers des électeurs hésitent encore.
Oui, absolument. C'est assez logique et c'est en ligne avec ce qui avait été observé en 2017. Aujourd'hui, nous avons 61% des Français qui se disent certains de voter pour un candidat ou une candidate. C'était 62% à une semaine du premier tour en 2017. Et dans la dernière semaine, cet indicateur avait progressé de 8 points. Il a déjà progressé d'une dizaine de points depuis le début de l'année, donc depuis le début janvier. Donc une campagne électorale qui a joué son rôle. Et alors, il y a des électorats évidemment qui sont d'ores et déjà davantage certains que d'autres. Notamment les électeurs d'Emmanuel Macron, eux sont les plus certains. Ensuite, on voit les électeurs de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse, puis les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. En revanche, et ça c'est assez classique, les électeurs de Yannick Jadot sont ceux qui, aujourd'hui, sont le moins certains de leur choix. Seuls 28% d'entre eux se disent certains de voter pour le candidat d'Europe Écologie Les Verts.
Une campagne électorale qui ne passionne pas, quelles explications à avancer? Alors oui, le Covid, la guerre en Ukraine.
Oui, alors elle ne passionne pas, mais tout de même les Français la suivent. 67% d'entre eux, deux tiers des Français, nous disent suivre la campagne, suivre ce que disent les candidats. Alors évidemment, cette campagne très particulière, la structuration de cette campagne rétrécie, tardive, rétrécie d'abord par la phase de Covid pendant tout le mois de janvier, qui a créé une sorte de diversion médiatique. Un début du mois de février où l'opinion publique d'une certaine manière, est suspendu à l'entrée en campagne d'Emmanuel Macron. Et puis, l'ouverture de la guerre en Ukraine, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui pendant 3 semaines, et c'est pas encore évidemment totalement terminé, là aussi déplace l'attention des électeurs vers la scène internationale. J'ajoute un autre élément, c'est l'absence de débat. Il y avait eu des débats entre les différents candidats avant le premier tour en 2017. Il n'y en a pas eu cette fois-ci. Ça, évidemment, ce n'est pas de nature à susciter l'intérêt des Français.
3 avril, dernier dimanche de campagne avant le premier tour prévu le 10 avril. Chaque candidat jette ses dernières forces pour convaincre. Yannick Jadot était à Nanterre, Valérie Pécresse en meeting à la porte de Versailles, Nathalie Arthaud à la Villette, Jean-Luc Mélenchon à Toulouse et Anne Hidalgo était à Paris au cirque d'hiver.
Vous êtes là! Vous êtes là parce que vous croyez toujours à la force des idées, parce que vous croyez au socialisme démocratique, celui qui met la liberté au service de la justice, qui est notre guide et notre idéal.
La candidate socialiste à la peine dans les sondages avec 2%. Tony Latier, bonsoir.
Bonsoir Adrien.
Vous avez suivi le meeting d'Anne Hidalgo cet après-midi à Paris. Alors malgré des intentions de vote plutôt faibles, la candidate socialiste a fait sale comble aujourd'hui.
Oui, salle comble au cirque d'hiver, environ 2000 personnes, avec aux premières loges les cadres du Parti Socialiste, en tout cas ceux qui restent, la maire de Lille notamment, Martine Aubry, ou encore l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Pour ce dernier tour de piste, Anne Hidalgo a délivré un discours d'une heure, très applaudi, au ton très combatif, et même si, elle l'a admis, les temps sont durs, elle est au plus bas dans les sondages, et quand elle dit que rien n'est joué d'avance, on se doute qu'elle n'y croit pas vraiment. En revanche, elle a voulu démontrer à travers ce meeting que la maison socialiste est toujours debout, qu'il en faudra plus pour la détruire. Nous sommes insubmersibles, a-t-elle lancé devant la foule. Et puis, elle a voulu aussi envoyer un message aux électeurs de gauche. Elle appelle tout le monde finalement à revenir vers elle, à rentrer au bercail. C'est comme si elle avait promis une loi d'amnistie pour tous les déserteurs du socialisme. Elle s'est d'abord adressée à celles et ceux qui pensent voter utile à gauche en voulant voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle a eu des mots très durs contre lui, un candidat qui refuse d'aider les Ukrainiens, de rompre avec l'Union européenne, un candidat sectaire. Anne Hidalgo finalement appelle à un vote de conviction. Et puis elle s'est tournée aussi vers celles et ceux qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2017 en leur disant en creux, ne refaites pas la même erreur car selon elle, le président sortant est un candidat de droite.
Frédéric Michaud, où est passé l'électorat socialiste ?
Alors effectivement, c'est la question qu'il faut se poser. Le score d'Anne Hidalgo dans les intentions de vote, vous l'avez rappelé, 2%. 2%, c'est trois fois moins que le score de Benoît Hamon en 2017, qui lui-même était un score historiquement bas. Alors, quand on a un score aussi faible et qu'on regarde l'évolution des électorats de 2017, on voit qu'une partie des électeurs de Benoît Hamon a rejoint Jean-Luc Mélenchon, à peu près 25% d'entre eux. Une partie reste fixée par Anne Hidalgo, mais c'est une faible partie. 15% environ est parti chez Emmanuel Macron, 16% chez Yannick Jadot. Hein, vous vous souvenez qu'en 2017, Yannick Jadot s'était désisté au profit de Benoît Hamon. Donc maintenant qu'il y a deux candidats, évidemment, les électeurs d'Europe Écologie soutiennent leur candidat. Et puis le reste des électeurs de Benoît Hamon se répartissent entre l'ensemble des candidats. Par exemple, 7% d'entre eux rejoindraient Fabien Roussel.
C'est vraiment la survie là, du PS qui se joue. L'enjeu maintenant est juste de dépasser les 5% et se faire au moins rembourser sa campagne électorale.
Oui, c'est la survie. C'est d'abord la survie, vous venez de le dire, la survie financière. Ça coûte cher, une campagne électorale. Et moins vous avez de voix, moins vous êtes remboursé, a fortiori avec cette barre des 5%. Et puis, au-delà de ça, il y a l'idée de pouvoir s'extraire de la présidentielle dans les moins mauvaises conditions pour préserver des chances de succès lors des élections législatives, en tout cas tenter de préserver les 25 députés dont bénéficie encore le Parti Socialiste.
Plusieurs candidats ont tenté de galvaniser leurs troupes aujourd'hui, comme par exemple l'insoumis Jean-Luc Mélenchon. Il était place du Capitole à Toulouse, troisième dans les intentions de vote avec 15%, et dans son viseur, Emmanuel Macron.
Hier, au meeting de M. Macron, les choses ont commencé avec un peu de pyrotechnique. Ensuite, ce fut en effet un festival feu d'artifice de bobards. Comment a-t-il pu croire qu'on ne s'en rendrait pas compte ? Il a dit « le taux de chômage est au plus bas depuis 15 ans ». Eh bien, ça vous fait plaisir de le savoir. Évidemment, ce n'est pas vrai. Parce qu'il a atteint, toutes catégories confondues, 6 millions. Et il y a 15 ans, il n'en avait que 3 millions et demi. Il a dit « on en a fini avec la désindustrialisation ». Eh bien, on est content. Bon, c'est pas vrai. Il y a eu 38 000 emplois industriels de moins depuis que c'est lui qui gouverne le pays.
Jean-Luc Mélenchon à Toulouse, avec 15% d'intention de vote. Frédéric Michaud, une campagne des Insoumis qui marque le pas ?
Oui, absolument. Les intentions de vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon la semaine dernière sont restées particulièrement stables à hauteur de 15%, alors que dans les jours précédents, il avait bénéficié d'une certaine dynamique. Ce qui est très intéressant quand on regarde l'évolution de ces intentions de vote et qu'on les compare à celles de 2017, c'est qu'elles suivent exactement le même mouvement. Elles sont tout à fait parallèles. D'ailleurs, la campagne que mène Jean-Luc Mélenchon cette année ressemble beaucoup à celle de 2017, y compris dans les villes, y compris dans le format des meetings, même s'il y a quelques différences et des innovations. La vraie différence, c'est que cette fois-ci, il y a un candidat communiste, Fabien Roussel, qui pèse 3 à 4% dans les intentions de vote. C'est évidemment une candidature qui pénalise celle de Jean-Luc Mélenchon et qui explique pourquoi elle n'a pas le même score, puisqu'en 2017, vous vous en souvenez, les communistes avaient fait le choix de soutenir Jean-Luc Mélenchon.
Et puis, à gauche, toujours sur l'échiquier politique français, chez les Verts, Yannick Jadot, aujourd'hui chez nos confrères d'LCI, souligne que la France est le seul pays européen qui n'a pas atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.
Ce quinquennat qui s'achève, et ce sera pire s'il devait y avoir un autre quinquennat, c'est le déni écologique, c'est la régression sociale. On a quand même un président de la République qui a été condamné 2 fois par la justice française pour inaction climatique.
Frédéric Michaud, pourquoi la question climatique imprime si peu dans cette campagne électorale ?
Oui, c'est une vraie question. On avait vu que c'était un enjeu fort, notamment au moment des élections régionales en juin dernier. Aujourd'hui, l'environnement, c'est un enjeu qui est en 6e position. Donc évidemment, dans l'esprit des Français, dans les préoccupations des Français, il y a des questions qui pèsent beaucoup plus fortement. La question du pouvoir d'achat, évidemment, 62%. La question de la protection sociale avec la santé, on parlait de la crise Covid tout à l'heure. Les questions d'immigration, de sécurité, les questions d'emploi, l'environnement arrive derrière tous ces enjeux. Et puis, il y a évidemment toutes les tensions sur le marché de l'énergie qui redonnent une coloration positive à la question du nucléaire. Et ça vient un peu en contradiction avec la thématique environnementale que cherche à apporter Yannick Jadot.
La question à présent du vote utile, c'est la chronique politique avec Aurélien Devernois. Une semaine de l'élection présidentielle, les esprits s'échauffent parmi les candidats et notamment ceux qui sont à portée de qualification pour le second tour. Jean-Luc Mélenchon, on le disait notamment pour l'instant, en 3e position dans les intentions de vote, multiplie les appels aux électeurs de ses concurrents. Mais son plaidoyer Aurélien pour un vote efficace se heurte à l'hostilité de ses rivaux.
Ne leur parlez surtout pas de vote utile en faveur de Jean-Luc Mélenchon, crise d'urticaire assurée pour Yannick Jadot, Anne Hidalgo ou Fabien Roussel. Pas question pour ces candidats d'ouvrir la voie à un siphonnage en règle de leurs électeurs, quand bien même leurs chances de qualification pour le second tour sont infimes. Une présidentielle, c'est un vote de conviction, martèlent l'écologiste, la socialiste et le communiste. Yannick Jadot estime même que le vrai vote utile, c'est lui, là où Fabien Roussel refuse de se faire tondre les électeurs sur le dos, au motif que sa candidature serait inutile. Et les candidats de gauche de se lancer dans la longue liste de leurs désaccords avec Jean-Luc Mélenchon, politique internationale, nucléaire ou encore laïcité.
Évidemment, dans le camp de Jean-Luc Mélenchon, le ressenti est différent.
Bien sûr, parce que à la fois leurs candidats progressent nettement dans les intentions de vote, mais la distance qui sépare Jean-Luc Mélenchon de Marine Le Pen, pour l'instant deuxième, et donc qualifiée, elle se maintient. L'urgence commence donc à se faire sentir du côté des insoumis, mais ils savent que l'appel au vote utile n'est pas forcément bien accueilli chez les électeurs. Autre problème, le concept va à l'encontre de leurs principes. Les insoumis ont souvent dénoncé la carte vote utile de la part du Parti Socialiste quand celui-ci dominait la gauche. Jean-Luc Mélenchon a donc fait évoluer son discours en mettant en avant d'un côté la convergence de son programme avec celui des écologistes et des communistes et de l'autre la nécessité de faire barrage à Emmanuel Macron et à Marine Le Pen.
Enfin, la candidate du Rassemblement National qui commence elle aussi à penser au vote utile.
Oui, en se projetant déjà au second tour, Marine Le Pen juge qu'elle pourrait bien représenter cette fois le vote utile pour les électeurs de gauche et en particulier ceux de Jean-Luc Mélenchon. Elle estime qu'ils préféreront voter pour elle, qui défend la retraite à 62 ans, plutôt que pour Emmanuel Macron, qui veut lui repousser l'âge de départ à 65 ans. Par ailleurs, si l'électorat de gauche décide de bouder les urnes, ce serait également à l'avantage de la candidate RN, car il avait massivement voté pour Emmanuel Macron en 2017 au nom du barrage à l'extrême droite. Apparaîtrait alors un nouveau concept en faveur de Marine Le Pen, l'abstention utile.
Alors le vote utile, Frédéric Michaud, une expression qui a toujours son sens en 2022 ?
Oui, alors il faut quand même rappeler que le vote de conviction reste la norme. 3/4 des électeurs nous disent qu'ils vont voter pour leur candidat préféré, quelles que soient ses chances de l'emporter. Et 24%, à l'inverse, nous disent qu'ils vont voter utile en tenant compte des chances de chaque candidat. On monte même à 30% parmi les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Vous écoutez Dimanche Politique. Valérie Pécresse, la candidate LR, était en meeting cet après-midi, porte de Versailles à Paris.
Je veux réconcilier la France éternelle et la Nouvelle-France. Oui, mes chers compatriotes, refusez l'immobilisme, refusez l'extrémisme. Je porte un autre destin pour notre pays.
Devant 5000 personnes à 7 jours du premier tour de la présidentielle, la présidente de la région Île-de-France voulait laver aussi l'affront de son meeting raté au Zénith début février, meeting qui avait enclenché sa dégringolade. Lucile Gimbert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous étiez sur place. Pour le coup, aujourd'hui, exercice réussi pour Valérie Pécresse.
Oui, meeting d'un style classique, mais plutôt réussi. En effet, le ton était beaucoup plus assuré, plus fort. Sur la forme, Valérie Pécresse a choisi de prendre le contre-pied de ce meeting au Zénith raté. Cette fois-ci, des jeunes l'accompagnaient sur scène. Il y a eu beaucoup d'orateurs avant elle. Son clan francilien, les finalistes à la primaire, les principales figures de la droite. Mais il y avait un grand absent, l'ancien président Nicolas Sarkozy. Depuis en privé à propos de Valérie Pécresse et laisse planer le doute sur un éventuel soutien à Emmanuel Macron, eh bien, figurez-vous que dans la salle, l'ancien chef de l'État a été brièvement sifflé cet après-midi par une partie des militants très déçus par son comportement. Du côté du fond, la candidate de la droite a appelé ses sympathisants à renverser la table, à faire mentir les sondeurs avec deux arguments, la sécurité d'une part et puis le pouvoir d'achat, 10% de hausse des salaires sur le quinquennat. Elle a aussi pilonné le bilan d'Emmanuel Macron, son exercice du pouvoir jugé méprisant. Il a oublié de nous envoyer la facture du quinquennat, a-t-elle notamment affirmé. L'objectif pour Valérie Pécresse, c'est de mobiliser l'électorat à droite qui est très courtisé dans cette campagne. Et bien, à la sortie, beaucoup de sympathisants se disaient regonflés, souvent après avoir eu des doutes. Des doutes vis-à-vis notamment d'Éric Zemmour ou encore d'Emmanuel Macron. Mais est-ce qu'une semaine sera suffisante pour remonter la pente ? Réponse dans une semaine, dans 7 jours maintenant.
Merci Lucile. Lucile Gimbert, alors on retiendra aujourd'hui que le nom de Nicolas Sarkozy a été sifflé au meeting de Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy qui n'a jamais apporté son soutien à la candidate LR. Alors Frédéric Michaud, un peu à la façon de Ségolène Royal en 2007, Valérie Pécresse n'est pas soutenue par les ténors du parti.
Alors, la comparaison doit être nuancée. Valérie Pécresse est tout de même soutenue par le président du Sénat, par le président du groupe au Sénat, par toute une série d'anciens ministres, surtout par l'ensemble des personnalités qui avaient participé au congrès, Michel Barnier, Éric Ciotti, Xavier Bertrand. Il y a quand même une unité qui s'est maintenue pendant toute la campagne. Évidemment, il y a eu des défections, je pense notamment à Éric Woerth,
à Jean-Pierre Raffarin.
Mais quand même, j'ai le sentiment que Valérie Pécresse est beaucoup plus entourée, beaucoup plus soutenue que ne l'était Ségolène Royal en 2006-2007.
Dans le sprint final à l'extrême droite, Marine Le Pen distance son rival Éric Zemmour avec 22% des intentions de vote. Et c'est d'ailleurs quasiment le résultat obtenu par la candidate du FN au premier tour en 2017. Aujourd'hui, à qui prend-elle ses intentions de vote, Frédéric Michaud ?
Eh bien, écoutez, quand on regarde la structure de l'électorat de Marine Le Pen, elle récupère 65% de ses électeurs de 2017. C'est un score très très bon. Seul Emmanuel Macron parvient à faire aussi bien. Elle récupère 10% des électeurs de François Fillon. Et puis, elle récupère aussi des personnes qui s'étaient abstenues ou qui avaient voté blanc et nul en 2017. On voit bien que dans cette fin de campagne, il y a une dynamique qui est plutôt favorable pour la candidate du Rassemblement national qui a progressé de 2 à 3 points, qui s'est installée au-delà de la barre des 20% et qui bénéficie sans doute d'un effet de vote utile de la part des électeurs d'Éric Zemmour notamment.
Un dernier mot avec vous, l'abstention pourrait être l'enjeu là, de cette élection présidentielle ?
Oui, absolument. C'est vraiment l'enjeu de la dernière ligne droite, un enjeu de mobilisation pour tous les électeurs. Aujourd'hui, l'indice de participation reste très faible. Nous prévoyons à date une participation de 66%. Alors, on sait que dans la semaine qui vient, tout ça va progresser, mais on se dirige sans doute vers une abstention assez élevée.
Frédéric Michaud d'Opinion Way, merci pour votre éclairage en direct sur RFI. C'est la fin de Dimanche politique réalisée ce soir par Fabrice Viollet. Dernière semaine de campagne à vivre sur Radio France Internationale. À noter que dimanche soir prochain, dès 19h30 heure de Paris, les équipes d'RFI mobilisées autour de Philippe Le Caplain pour une édition spéciale résultat du premier tour. Bonne soirée à toutes et à tous.